Une heure sur Phare FM.
Phare FM.
La radio autrement avec vous dans la nuit autrement. Bienvenue.
La Bible dit:
celui qui pardonne une faute aura des amis. Et s'il en parle sans arrêt, ses amis partiront.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Tu m'as capté dans mes pleurs. Je n'avais plus le cœur à te louer. Tu m'as donné le vrai bonheur, la vie, la vérité, c'est toi Seigneur. Et je t'ai cherché dans le feu, je t'ai cherché dans la tempête, et tu m'as ouvert les yeux. Maintenant je connais la recette, toi tu es dans la brise, tu viens me parler. Jésus, je veux te suivre au creux du rocher, je veux vivre ma vie avec toi. La vie dont je rêvais,
c'est la vie dont je rêvais.
Parfois je doute, Dieu t'es où? Y'a tellement de bruit autour, ce monde est fou. Mais j'ai foi, je sais que t'es là. La vie que j'ai choisie, c'est pas sans toi. Non, 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 non.
Je t'ai cherché dans le feu, je t'ai cherché dans la tempête, et tu m'as ouvert les yeux. Maintenant je connais la recette, toi tu es dans la brise, tu viens me parler. Jésus, je veux te suivre au creux du rocher, je veux vivre ma vie avec toi. Relever les défis avec toi. En Dieu seul, je sais enfin où je vais. En Dieu seul, j'ai la vie dont dans tes bras,
encore,
comme pour la première fois,
encore,
attiré par ta voix,
encore,
je veux suivre tes pas,
encore,
je veux vivre ma vie.
Taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Up above.
above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my brain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like... You're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like...
Sur Phare FM, c'était Imagine Dragons, Believer, la radio autrement qui vous accompagne, 1h06, on est mardi, on est le 1er juillet. En espérant que ça va et si vous travaillez, bon courage, je vous propose encore un beau programme. Retrouvez Jérémy Poulet tout à l'heure dans Pain de Vie et puis les langages de l'amour un peu plus tard et de la musique tout de suite avec Emma Nissen, Love Like You. Merci de rester avec Phare FM.
Heures.
La nuit autrement
avec Mireille.
Emma, top tune.
Something as simple as looking for you. It does remind you, Lord, what I'm supposed to do. Feel from you, so show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. There's nothing as simple as a love inside a tune, so show me.
ce désert dans mon cœur. Je broie du noir là, je suis pas d'humeur. Dis-moi, il est où le bonheur? 10 ans plus tard et autant d'erreurs. Toujours ce parfum, cette odeur. Je veux nous revoir ici ou ailleurs. Je veux m'envoler.
Dernière fleur, l'eau a coulé, les larmes meurent. Une autre histoire, un nom meilleur. S'abandonner, faire fuir nos peurs.
Que nos mémoires effacent ces heures. Passer à torturer nos cœurs. Une dernière danse pour deux âmes sœurs. Je veux m'envoler.
Chanter du matin au soir pour t'aimer. Braver les vents, les marées, les tempêtes. S'il le fallait, je veux m'envoler.
Maintenant, votre message pain de vie avec le pasteur Jérémy Poulet.
Cette série est destinée, message après message, prédication après prédication, à vivre des choses qui étaient impossibles avant et qu'elles deviennent possibles dans notre vie maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voyez-vous, il y a des principes, on peut les connaître, on peut croire en ces principes et ne pas les vivre. Donc tout est possible avec Dieu, ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait le plein. Pour avancer, pour pouvoir rendre l'impossible possible. Il y a des versets dans la Bible, on les connaît, on les sait. Le principe, on le sait, on l'a compris. Est-ce que nous l'utilisons pour rendre l'impossible possible? Il y en a un que j'aime énormément, il y en a plein, hein, mais il y en a un que j'aime énormément, c'est le Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Principe spirituel. Je le crois, vous le croyez aussi? Moi je le crois vraiment. Je crois que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, ce qui veut dire que je ne vais pas juste parler pour raconter des histoires, pour donner des informations, pour faire rire ou pour... Non, je veux réaliser que quand je parle, je peux amener de la mort ou je peux amener de la vie. Si j'en prends conscience, tout change. Et ce matin, le message que je vous porte, j'aimerais le rendre applicable et extrêmement concret à un domaine de notre vie qui nous concerne absolument tous. Tout le monde ce matin est concerné par ce que je vais prêcher. Tout est possible pour ma famille. Ok, vous n'y croyez absolument pas. Non, je comprends, parce que tu sens que ce qui arrive, ça va piquer. Et je sais que ce matin, ça peut piquer. Mais tout est possible pour ma famille. Si je... Ouais. Elle compte pas, celle-là. J'y crois vraiment, je suis habité par ce message. Je crois terriblement que, en fonction de ce que je vais vivre, en fonction de ce que je vais croire, en fonction des actions que je vais poser, je vais rendre des choses qui étaient impossibles dans ma famille, possibles. Ce qui n'arrivait pas, va arriver. Pense à toutes sortes de choses dans ta famille. Ce qui est impossible peut devenir possible dans ta famille. Simplement, ça nous engage, ça prend nous. Alors on va voir ensemble si tout est possible dans ma famille. On va voir que premièrement, tout est possible dans mon couple. Tout est possible pour mon couple. On va commencer avec ça si vous voulez bien. Il y a un des livres que je préfère dans la Bible, c'est le livre de la Genèse. Ceux qui me connaissent, ceux qui ont déjà parlé avec moi, ce livre, je peux le lire, le relire, le re-relire, le re-re-re-re-re-re-relire. J'apprends toujours, je suis toujours défié par ce livre, il me parle de manière vraiment particulière. Et notamment les premiers chapitres du livre de la Genèse. Ceux avec la création, avec tout ce que Dieu a pensé, imaginé, planifié, le scénario de Dieu, tout comment devait se passer. Et on arrive à Genèse 3, la chute de l'homme. C'est le moment où tout bascule du mauvais côté. C'est le moment où on ouvre la porte à l'humanité, à la maladie, à la défaite, à l'humiliation, au péché, aux chutes, aux difficultés, à la peine. Tout rentre dans Genèse 3. Et tout rentre tout simplement parce que l'homme et la femme, alors qu'ils croyaient à ce que Dieu disait, ils ont commencé à mettre en doute. Dieu a-t-il réellement dit ? Ils ont commencé à croire à une autre voix. Ils ont commencé à croire à la voix de ce serpent, de cet ennemi, du diable, qui venait leur dire : Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que tu ne crois pas qu'il ne serait pas mieux de faire autrement pour vivre autre chose ? Et alors qu'ils vont manger, qu'ils vont se nourrir de ce que le diable avait pour eux, ils ont ouvert la porte littéralement à l'effondrement du plan de Dieu pour eux. Et dans ce contexte-là, j'aimerais vous lire Genèse 3. Dieu va retourner vers Adam. Il va lui dire, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? Verset 12, l'homme répondit, deux points, ouvrez les guillemets, la femme que tu a mise auprès de moi, m'a donné de l'arbre. Et j'en ai mangé. On a un Adam qui va tenter de se défaire de sa responsabilité. J'ai un problème dans ma famille, j'ai un problème dans mon couple, j'ai un problème dans ma maison, j'ai un problème dans mon foyer, mais ce n'est pas ma faute. C'est la faute de l'autre. Et ce que fait Adam, il déclare publiquement, il prononce une parole qui va à l'encontre de son épouse, qui va à l'encontre de la femme. D'ailleurs, il ne dit pas « ma femme », vous l'avez noté comme moi. C'est pas sa femme, c'est la femme que Dieu a mis près de lui. Je sors totalement de ma responsabilité. Combien pensent que Adam va passer une belle soirée là ? Des paroles comme ça, est-ce que ça amène la vie ou est-ce que ça amène la mort ? Là, Adam, ton couple, ta famille, ton foyer, grillé, brûlé, cramé, consumé, faillite, échec. Et là, tu te réveilles, tu arrives un dimanche matin à Momentum, tu t'appelles Adam, et puis tu as la femme que Dieu a mis près de toi, puis t'es là, tu dis, ah ouais, tout est possible avec Dieu. Mais surtout, ne prêche pas sur le couple. Surtout, ne me parle pas de ça. Pour la vie des autres, pour le couple des autres, ça peut fonctionner. Mais pour mon couple, c'est impossible. C'est fini, ça ne marche pas, il n'y a rien à attendre, c'est pas possible. On doit comprendre ceci, c'est que non seulement Adam est promis à une très mauvaise soirée, mais au-delà de ça, quand je prends cette posture, quand je ne prends pas au sérieux, quand je ne réalise pas que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et que je laisse aller ma langue à la mort, j'amène du drame sur le drame. J'amène des conséquences aux conséquences. J'amène un problème sur mon problème. Regardez ce que Dieu dit, trois versets plus loin, verset 17, cinq versets plus loin. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Écoute bien ce qui va se passer. À cause de cette attitude, à cause de cette façon de parler, de cette façon de déclarer et de voir celle que j'ai mis près de toi, le sol sera maudit à cause de toi. Tu n'en mangeras pas. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est un passage, une bénédiction assortie d'une difficulté. Tu vas manger, mais tu vas galérer. Et tu vas retourner à la poussière. puisque tu étais tiré de la poussière, que tu prends cette attitude, que tu fuis ta responsabilité, que tu ne reconnais pas, ça va être de plus en plus difficile. À ce moment de l'histoire, quand tu es Adam, une fois que la réunion est terminée, que Dieu est reparti, qu'est-ce que tu fais avec la femme que Dieu a mise auprès de toi? Viens ici. C'est à cause de toi tout ça. C'est à cause de toi qu'on en est là. T'as vu un peu? Tu réalises un peu? À cause de toi, on va galérer, ça va être dur. À cause de toi, les finances, ça va pas. À cause de toi, Dieu est fâché contre nous. Je peux pas rentrer dans mon appel. Je peux pas vivre ce que Dieu a pour moi. Tu peux pas vivre ce que Dieu a pour toi. C'est à cause de toi tout ce qui arrive. Retourne, pars, fuis, va-t'en. Je veux plus te voir. Scénario 1. Scénario 2. Adam a opté pour le scénario 2. Verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle est la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme les habits de peau, et il les en revêtit. Alors que tout semble plié, mort, impossible, consumé, Adam, quelque part dans sa conscience, l'Esprit de Dieu vient le chercher. Et au lieu de tourner le dos à son épouse, il dit, ben c'est fini, si c'est ça mon couple, c'est terminé. Puis la famille, puis les projets de Dieu, puis... Adam se retourne vers la femme que Dieu a mise auprès de lui, 5 versets plus haut. Il l'appelle sa femme. Et il prononce un prénom sur sa vie. Et qu'on se comprenne bien. C'est pas Saint-Valentin, t'es jolie ma chérie. Il prononce la vie sur son épouse. Il déclare Ève comme la mère de tous les vivants. À ce moment-là, ils n'ont pas d'enfant. Il ne lui rappelle pas qu'elle est mère. Il déclare prophétiquement ce que Dieu veut faire dans leur famille. Au lieu de fuir, il prend sa responsabilité. Et au lieu de parler en mal, au lieu de semer de la mort, parce qu'il a compris que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, alors il va utiliser sa langue pour prononcer la vie sur celle qu'il reconnaît comme son épouse. Ève, parole prophétique, Genèse 3. À la suite de ça, qu'est-ce que Dieu fait? On l'a lu. Dieu prend un animal, il le sacrifie, il leur fait des habits. Première fois dans l'histoire de l'humanité que le sang coule. Premier sacrifice qui est nécessaire que Dieu fait. Dieu revient dans cette histoire. Le ciel se réouvre, les possibilités de Dieu, la grâce de Dieu, l'image de Jésus dans l'Ancien Testament. Le sang coule pour couvrir la honte, pour couvrir le péché et restaurer les possibilités que l'on peut trouver en Dieu dans un couple. Et tous les couples disent, il y a des vérités, on peut les crier aussi fort qu'on veut, on peut les chanter aussi fort qu'on veut, on peut les prêcher aussi longtemps qu'on veut. Mais de cette journée, d'aujourd'hui, c'est une journée historique. C'est une journée historique dans la vie de plusieurs. C'est une journée historique parce qu'à la fin de cette journée, tu peux dire tout est possible et revenir la semaine prochaine et dire tout est possible et dans un an et dans 10 ans dire tout est possible ou vivre que tout est possible. Comprenez-moi, c'est pas une baguette magique. C'est pas je vais dire quelque chose et tout va s'arranger dans mon couple. C'est pas ça. Adam, quand il prononce cette parole, il y a une prise de conscience qui va l'amener à vivre différemment, à considérer son épouse différemment, à faire de l'autre son partenaire plutôt que son adversaire. Il a compris que sa meilleure alliée, c'est l'autre moitié de son couple. Et nos vies changent, et nos couples changent quand on réalise, quand on comprend, quand on célèbre le fait que notre meilleur partenaire, notre meilleure chance, notre meilleure option, c'est celui ou celle avec qui tu partages ta vie. Et prononce la vie sur celui ou celle qui vit avec toi. J'aimerais m'adresser à tous les couples. Que tu ailles bien, c'est la fête, c'est génial, super. Que tu sois dans une galère, tu sais que c'est passager, c'est un moment, c'est difficile, il y a ceci ou il y a cela. Ou que ton couple, t'as l'impression que c'est mort, c'est fini, c'est cramé, c'est brûlé. J'aimerais péter un mythe ce matin. On passe tous par ces moments-là. L'homme qui vous parle est passé par ces moments-là. Et peut-être je passerai encore par ces moments-là. Mais je refuse que Satan gagne. Je le refuse. Et je déclare la vie sur mon conjoint, sur mon épouse. Je déclare la vie sur celle qui partage ma vie. Deuxièmement, si tout est possible pour mon couple, je crois que tout est possible pour mes enfants. Et je voudrais qu'on prenne le mot de l'enfant au sens biblique du terme, au sens large. Oui, les enfants, ce sont ceux que nous faisons, nos enfants naturels. J'ai la chance d'avoir deux enfants, ils sont inscrits sur le livret de famille, et puis on pense à cela naturellement. Mais j'aimerais m'adresser à tout le monde, que tu aies des enfants ou pas. Il y a une autre définition des enfants dans la Bible. Les enfants sont aussi les enfants que nous enfantons spirituellement ou pas. Et l'apôtre Paul, j'aime ce qu'il dit à Timothée, j'aime le rapport qu'il a avec Timothée. De Timothée 1, verset 1er, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Parole de bénédiction, parole de vie, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est l'attitude d'un papa spirituel. Nous sommes appelés les uns les autres à être des pères et des mères spirituels. Des parents sur la terre, c'est une chose, mais tu peux être papa ou maman d'un garçon ou d'une fille ici sur la terre, mais ne pas être un père spirituel. Et nous sommes appelés à être des pères et des mères spirituels avant toute autre chose. Et comment est-ce qu'on est un bon père ou une bonne mère dans le sens spirituel? J'aimerais qu'on regarde à l'exemple suprême, l'exemple incontestable. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi sur plein de choses, mais là, c'est incontestable. On va prendre l'exemple de Dieu le Père. On est à peu près il y a 2000 ans en arrière, une grande fête organisée autour du Jourdain. Il y a du monde qui prend le baptême. C'est un moment de fête, les gens se repentent, les gens font demi-tour, ils s'engagent avec Dieu, ils se détournent de leurs péchés et Jésus arrive là et il demande à être baptisé par Jean-Baptiste. Dans Luc 3. Et alors que Jean-Baptiste négocie, non, je veux pas, je peux pas, tu peux, laisse faire, il faut que je le fasse, je dois montrer l'exemple. Et je prends le baptême d'adulte, je montre l'exemple, j'ouvre la voie. Et alors qu'il le fait, une voix fit entendre, Luc 3 verset 22, du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, et en toi j'ai mis toute mon affection. Dieu prononce des paroles extrêmement fortes à son fils, qui n'est pas un bébé au-dessus du berceau. Oh, il est tout mignon, c'est mon fils. Non, rien à voir. Déclaration publique à l'humanité. Le monde doit savoir que c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu vient se révéler à l'humanité comme un père. Voilà, c'est mon fils et voilà comment, en tant que père, je veux que vous compreniez qui je suis. Je déclare publiquement mon amour pour mon fils. Je place en lui mon affection. Et j'ai noté ceci, les pères et les mères doivent dire à leurs enfants qu'ils les aiment. Ils doivent leur affirmer toute leur vie. Comment, dites-moi comment, un gars comme Jésus qui à ce moment-là, il est 100% homme, il a 30 ans, il n'a pas encore commencé son ministère. Il va affronter les trois années les plus grandes et les plus difficiles, les plus intenses de sa vie sur terre. Il va être rejeté, bafoué, moqué, incompris. On va le porter, ça ouvre jusqu'à la mort. C'est impossible, impossible de vivre ce qu'il a vécu. Et ça a été rendu possible, entre autres, pas seulement uniquement, mais aussi grâce au fait que son père lui dise « Tu es mon fils et je t'aime. » Et ce matin, j'aimerais dire à toutes celles et tous ceux qui sont dans la pièce ce matin, « Tu es son fils, tu es sa fille bien-aimée, en qui le père a mis toute son affection. Tu es aimé. » Et j'aimerais encourager les pères et les mères sur la terre, les mentors, les pères et les mères spirituels, à aller dire, à la fin de cette réunion, à leurs fils, à leurs filles, à quel point ils les aiment, à quel point ils ont placé leur affection en eux. La pensée affection, le mot grec, c'est eudokeo, qui signifie affection, trouver bon. Le père dit, je trouve bon, je te trouve bon. C'est bien vouloir, plaire, agréable, aimer, décider et agréer. Et le père choisit de mettre son affection dans son fils. Un père ou une mère choisit de placer son affection dans ses enfants. Et nous sommes appelés, en tant que père et mère, à publiquement, c'est pas, oh là, mais ils savent que je les aime. Non, dis-leur. Prononce la vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Prononce la vie sur tes enfants, je t'en supplie. On n'est pas là juste pour parler des choses, on est là pour les faire et les vivre ensemble. Si tout est possible aussi pour mes enfants, je crois, troisièmement, que tout est possible pour mes frères et sœurs. Et encore une fois, je dois comprendre le principe pour comprendre et pour vivre pleinement le point. Tout est possible quand je comprends le principe de la famille de Dieu. C'est que nous sommes frères et sœurs. Il y a mes frères et sœurs. Moi, j'ai un frère et une sœur à Dunkerque. Et c'est mes frères, c'est mon frère et ma sœur de sang. On est sur le même livret de famille. Mais nous sommes également frères et sœurs de sang en Christ. Si vous me permettez l'expression, regardez avec moi le texte, ce que l'évangile nous rapporte. Marc 3, verset 32. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Il répondit, donc Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, il répondit, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur. On est frères et sœurs, les amis. Ce qui nous oppose, nos différentes opinions, façons de voir, culture, tout ce que vous voulez, ne pourra jamais, jamais, jamais avoir raison du fait qu'on est frères et sœurs. Et quand on est frères et sœurs, quand on réalise ce point-là, on n'est plus juste des gens qui nous rassemblons à l'église dimanche. On n'est pas juste là, j'écoute le pasteur et puis je vis la louange, puis c'est super, et puis et je repars comme si ça n'a rien passé. Je réalise que c'est un rassemblement de famille. C'est une cousinade aujourd'hui. Il y a des gens de partout. On se rassemble, on fait le choix de se tenir ensemble. C'est un super bon programme, ça. On est une famille. Et quand on est une famille, on se comporte d'une certaine manière. Si on est juste des membres d'une association, on vient à l'Assemblée Générale, on vote, ou on vote pas, ou on vient pas. Mais une famille, c'est une famille. Ton frère reste ton frère, même s'il vient pas. Ta sœur reste ta sœur, même si elle vient pas. Même si tu fais n'importe quoi, tu restes mon frère. Même si tu fais n'importe quoi, tu restes ma sœur. Fais pas n'importe quoi. Mais on va se comporter différemment parce que nous sommes frères et sœurs. Et Jésus est en train de poser les bases d'une révolution spirituelle. C'est jusqu'à ce moment-là, c'était le peuple de Dieu. Et c'était localisé, c'était un pays, c'était une nation, c'était en Israël. Et à la fois, Jésus est en train de resserrer les liens et d'étendre les possibilités. C'est que nous sommes frères et sœurs en Jésus. Alors, je sais, ça peut faire un peu old school de parler comme ça, mais c'est une réalité. Ça n'enlève pas le principe. La réalité, c'est que tu es assis à côté de ton frère et de ta sœur. Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça change finalement d'être ici en famille? Je vais vous lire un psaume. Je suis sûr que si vous avez un petit peu de culture biblique, vous l'avez déjà entendu, lu, écouté, prêché. Mais je vais vous surprendre ce matin. Psaume 133, verset 1er. Qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Il y a deux pensées fortes dans ce texte. La première, c'est que normalement, en famille, il est doux et agréable d'être ensemble. Agréable et doux. Agréable, tobé. C'est ce qui signifie pur, bien, favorable, bien-être. Dans ma famille, j'ai le choix. J'ai le choix dans ma famille d'avoir un regard pur sur les gens. De chercher le bien des gens. Leur bien. C'est ma responsabilité dans ma famille de chercher le bien de ma famille. De faire ce qui est favorable. De chercher le bien-être. Qui veut autre chose pour sa famille que ce qui est là? Ça n'existe pas. Et on peut le vivre dans notre cellule familiale à la maison ce midi quand tu manges le rôti et que tu parles de moi. Mais aussi en tant qu'église, dans tout ce qu'on fait. C'est agréable, chéri, dans la joie. On a de la joie à se retrouver en famille. On le choisit, on le décide. C'est je le déclare. Quand David déclare ça, il le dit. C'est doux, c'est agréable, c'est pur, c'est bien, c'est favorable, c'est le meilleur, c'est la grâce, c'est aimable, c'est un délice, c'est mélodieux d'être ensemble. Je le choisis, je me donne à ça. Ça, c'est le principe pour la famille. Pour ma famille de sang, mais pour ma famille en Christ. C'est le programme, c'est ce qu'on veut vivre. Et ça, c'est ce qui rend les choses possibles. Alors vous allez me dire, mais en quoi ça rend l'impossible possible, tout ça? C'est à cause de la deuxième pensée. C'est agréable, c'est doux pour les frères de demeurer ensemble. Et la pensée est la suivante, c'est la pensée de l'Hermon. Et Hermon, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Hermon, c'est une chaîne de trois montagnes qui sont tout le temps enneigées. Extrêmement fertiles. Sur les coteaux, il y a plein d'arbres, il y a plein de végétation. Et c'est à partir de ces montagnes-là que se forment les ruisseaux qui alimentent le fleuve qu'on appelle le Jourdain, ce fameux fleuve dans lequel Jésus a pris son baptême. Si vous me permettez ce petit raccourci, il vaut ce qu'il vaut. Hermon alimente le baptistère. Ce que nous vivons en famille, la mentalité de la pureté, de la grâce, du bonheur, le choix d'être intentionnel dans toutes ces choses-là, de prier, de défendre, de chercher et de vivre ça, amène génération après génération l'engagement de nos enfants, de nos petits-enfants, à marcher avec Dieu, à vivre avec Dieu, à être des canaux de bénédiction, de grâce, de puissance, de la manifestation de ce que Dieu fait. Il y a une puissance pour la famille, les amis. Nous ne sommes pas juste là pour faire des trucs. On est appelé à vivre et à défendre tout ce qui était sur le tableau là à l'arrière. C'est ça qui alimente le baptistère. Quand je réalise, quand je mesure ça, c'est sûr que ma bouche doit prendre les engagements pour ma famille. C'est pas juste, ouais, psaume 133 le dit. C'est, je veux faire le choix, je veux dire, c'est agréable et c'est doux pour moi d'être avec toi, mon frère, d'être avec toi, ma sœur, d'être avec toi. C'est bon. Et puis c'est pas juste, je le dis et puis j'ai une attitude de cochon. C'est, je vais faire que ce soit bon. J'y crois tellement que je vais me placer dedans et je vais le faire, je vais le rendre possible que ce soit bon, agréable et pur. Que mes pensées sur les femmes de l'Église, Paul dit à Timothée, considère-les comme tes sœurs. Ça amène de la pureté quand tu regardes une femme comme ta sœur. Honore celui qui a les cheveux blancs. Ça me pousse à une forme d'action. Ça me pousse à vivre et à rendre impossible quelque chose qui est possible. Et ça, c'est la puissance de Dieu qui agit en moi infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous avons besoin de vivre ça à 200 000%. Vous êtes avec moi, l'Église ? Pour terminer ce message, je vais finir avec une illustration, une anecdote, une leçon d'objet, quelque chose. Et puis, j'étais en train de lire ma Bible, et puis j'ai commencé à balayer les pages de ma Bible, et puis, en fait, j'ai été pris au piège par la Bible. Ça vous arrive, ça ? Pris au piège, pris en otage par la Bible. Et en fait, il y a tellement, de la première à la dernière page, il est question de les familles. La Bible, c'est un livre des familles. Et mon cœur a été saisi. J'ai juste relevé quelques exemples. Il y en a plein de situations. Je pourrais prêcher, je pourrais faire 3 ans de série de messages juste avec tout ce qui est possible. Noé, ce papa a été capable de se faire passer pour un dingue et de travailler fort pendant 120 années pour sauver sa famille. Sans relâche, 120 années se faire passer pour un dingue. Abraham a intercédé pour son neveu et sa famille, Lot. Il a négocié, il était dans la présence de Dieu, il a négocié avec Dieu pour qu'il ne meure pas. Pourquoi ? Il voulait sauver sa famille. C'est impossible, ils vont tous mourir. Non ! Je vais me tenir entre les morts et le vivant, et ils ne vont pas mourir. Attendez. Ruth, une jeune femme, veuve jeune, qui fait le choix de rester avec sa belle-mère. Elle quitte son pays. Je vais rester avec ma famille. J'aime trop ma famille pour que ça soit fini, que ça coule. Je refuse ça. Esther, elle a risqué sa vie pour sauver son peuple, sa famille qui est dedans. Ils vont mourir si je ne vais pas me tenir devant le roi. Ils vont mourir. Non, je vais faire quelque chose. Gédéon, le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu, du plus petit. Il se lève, il se dresse, il relève le défi. Pourquoi ? Pour sauver sa famille. Il prend sa responsabilité. Élisée qui est appelé par Élie à le suivre pour faire le ministère avec lui. Élisée qui va demander à Élie la permission de retourner d'abord voir ses parents pour prier avec eux, pour prendre ce temps-là. Laisse-moi prendre ce temps-là avec eux, laisse-moi. Et Élie qui dit, mais oui, vas-y. Et Élisée qui, avant de se donner à fond à son ministère, à son service, veut prendre soin de sa famille. Il prend soin de son père et de sa mère. Un message pour les enfants. Je ne vais pas faire n'importe quoi pour servir parce que le prophète m'appelle et que je dois partir et puis hop, je vais là-bas. Non, je prends le temps de m'asseoir avec ma famille. Et je prends le temps de les bénir et de parler, de prier avec eux. Joseph. Vendu par ses frères. Vendu. Dis-moi, vendu. Vendu. Vendu par ton frère. Laissé pour mort dans une citerne, vendu comme esclave à l'Égypte, il part là-bas, puis terminé, rayé, terminé, fini, Joseph. plus de possibilités. Super ambiance à Noël, là, la famille. Souvenez, Noël dernier, comment c'est bien, il y avait Joseph. Mais là, il n'y est plus. Il est mort. En fait, on l'a vendu. Comment t'es quand t'es un jeune frère, là, Joseph? Comment tu vis ça? J'ai trahi par mes frères, vendu par mes frères. Au jour de la famine, ils vont aller en Égypte, les frangins. Ils vont reconnaître et découvrir que c'est Joseph qui est devant eux. Là, t'es Joseph. Hey, t'as le bouton de la bombe dans la main. Vous allez tous mourir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous êtes mes frères, je vais vous bénir, vous allez manger, vous allez retourner voir le Père, vous allez le ramener ici, vous allez vivre. Vous allez vivre, vous m'avez fait mal, mais vous allez vivre. Pourquoi ? Vous êtes ma famille. Vous êtes ma famille. Jaïrus, exemple ultime, Jaïrus. Jaïrus, sa fille est mourante. Le pauvre père. Peut-être certains vous disent, ah ouais, comme on a de la chance, hein, nos enfants ont la santé. Et des pères et des mères ici, vos enfants sont en train de mourir dans leur péché. Puis ça vous fait souffrir autant que Jaïrus, de voir la fille mourir. Des fois, nos enfants sont juste en train de faire n'importe quoi. Ils se détournent et on souffre. Qu'est-ce que fait Jaïrus? Il s'en fout de son étiquette, qu'il est quelqu'un ou il n'est pas quelqu'un, qu'il est connu ou pas connu. Il va aller voir Jésus, il va prendre Jésus, on va traverser la foule, tu vas venir dans ma maison, tu vas venir prier avec moi, tu vas venir faire quelque chose pour ma fille. Il va pas le lâcher. Entre-temps, il y a une femme qui les arrête et puis il le lâche pas, viens, il arrive là-bas. C'est trop tard, elle est morte. Non, j'ai Jésus avec moi. Tu vas venir prier ici, il va se passer quelque chose. Famille, un père qui se bat pour sa famille. Un père qui lâche pas, une mère qui ne lâche pas. On est venu pour l'entendre, on est venu pour le vivre. Tout est possible pour ma famille, dis-le. Une réalité spirituelle à laquelle nous devons faire face, c'est qu'aujourd'hui, comme tout temps de la Genèse, Satan veut détruire ton couple. Le programme n'a pas changé, la mission n'a pas changé, on la connaît, on connaît l'ennemi, on sait ce qu'il veut faire. Et Satan voudrait que tu regardes l'autre comme ton adversaire, alors que c'est ton allié. Si il ou elle n'est pas à côté de toi, pour toutes sortes de raisons, j'aimerais que tu serres tes mains en prière. Et que tu dises, Seigneur, je vois mes mains. Vois mes mains, je te prie maintenant pour mon époux, je te prie pour mon épouse. J'aimerais te demander quelque chose, toi qui m'écoutes aujourd'hui. J'aimerais te demander, quand tu vas rentrer à la maison tout à l'heure, quand tu vas être en voiture ou ce soir, quand tu vas retrouver celui ou celle que tu aimes, j'aimerais que tu déclares la vie. Que tu déclares une parole de bénédiction, une parole prophétique. Ce n'était pas possible, mais ça va le redevenir. Ça n'était plus possible, ça va le redevenir. C'était impensable, c'était inimaginable. Je te voyais comme mon ennemi, mais c'est fini. Je refuse. Cette mentalité-là tombe, ça s'arrête, c'est terminé. C'est fini. J'aimerais que tu puisses prier maintenant là où tu es pour tes enfants. Pour tes enfants, ceux qui sont sur ton livret de famille, ton fils, ta fille. J'aimerais que tu puisses prier pour les personnes qui sont autour de toi dans ton département. Pour celles et ceux de qui tu dois être le père ou la mère, le modèle, celui que l'on regarde vivre et qu'on a envie d'imiter. Je prie que tu deviennes, que tu réalises que tu es un modèle. Et que tu places dans celles et ceux qui sont autour de toi ton affection. Apprécie-les. Dis-leur à quel point tu les aimes. Aime-les vraiment. Aime-les vraiment. Pas juste des mots. Pose une action. Pose un geste. Je t'en supplie de la part de Dieu. J'aimerais que tu pries maintenant aussi pour tes frères et sœurs, pour ta famille. Pour ta famille de sang, mais pour l'église, les frères et sœurs autour de toi. J'aimerais que tu puisses les voir, non pas comme tes ennemis, non pas comme des rivaux, non pas comme des gens qui réussissent mieux ou moins bien, mais j'aimerais que tu puisses les voir comme tes frères et sœurs.
Ce message a été enregistré à l'église Momentum de Bordeaux. Pour le réécouter, rendez-vous sur eglisemomentum.com.
Phare FM, l'émotion partagée. Dimensions stuck in the twilight zone.
just mistaken. Disguise our intentions. Honest with a mask. Why do I still protect you? Pretend these songs aren't about you. Hope this might be the last one. Cause I'm not fooling anyone. Does she know you're not who you say you are? Cause I might give her a call. Or was I just not feeling it? And it's not.
Des Twilight Zone sur Phare FM, 1h47, la radio autrement avec vous, dans la nuit autrement. Et notre programme se poursuit. Vous allez retrouver dans 7 minutes les langages de l'amour, votre prochain rendez-vous. Et avant cela, de la musique, Coldplay The Scientist, c'est tout à l'heure. Et tout de suite, on écoute Holy, Rêver plus beau.
On sait bien que le monde se cherche. On voit bien que les fleuves s'assèchent, mais on persiste et on résiste. On sent bien que l'amour est fragile. On se tient quand nos vies vacillent et on s'accroche, on se rapproche. Si on allait toucher le ciel, là où se cache l'essentiel. Comme un oiseau, rêver plus beau, aller plus haut, décrocher la lune. Comme un oiseau, rêver plus beau, aller plus haut, au sommet des dunes.
De l'amour.
L'idée que certaines situations sont sans espoir est un des principaux obstacles à la croissance du couple. Ceux qui la partagent se disent « Il y a peut-être de l'espoir pour les autres, mais pas chez nous. Il s'est passé trop de choses. Ça a duré trop longtemps. La blessure est trop profonde. Les dommages sont irréversibles. » Cette façon de penser mène à la dépression et au divorce. Demandez à n'importe quel conseiller conjugal et il vous parlera des dizaines de couples dont les mariages ont été profondément transformés. Tout commence par un choix. Vivre selon la vérité plutôt que de croire un mensonge. Souvenez-vous que Jésus a dit « La vérité vous rendra libre ».
C'était Les Langages de l'amour de Gary Chapman, une production de l'Institut biblique Moody de Chicago en partenariat avec Phare FM.
Phare FM, au-delà de la musique. Écoutez.
Downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I can just see you tonight.
love you, and I wonder if you ever think of me. Cause everything's so wrong, and I don't belong, living in your precious memory. Cause I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? How can you know I'd walk a thousand miles? I can just see you tonight. Faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I still need you, and I still miss you. Sky, do you think time went past us by?